Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue dans le salon Savoie du Lausanne. Bienvenue à nos deux auteurs, Jean Descartes et Bernard Lecomte. Je leur souhaite la chaleureuse bienvenue ici sur le lac Léman.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà. On va passer environ une heure et demie ensemble. Je pense que le programme va être riche. Vous le verrez. On a la chance d'avoir deux journalistes spécialistes de sujets historiques qui sont assez bavards, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, qui aiment raconter des histoires. Qui sont d'excellents conteurs, donc on va se régaler. Alors, si vous permettez, je vais les présenter brièvement. Très très brièvement, parce qu'ensuite on leur laissera la parole. À ma droite, Jean Descartes, qui est journaliste, historien, écrivain, spécialiste de sujets historiques. Il a écrit une trentaine de livres, portant notamment sur les têtes couronnées, mais également sur les trains, parce que Jean Descartes est un grand amateur de trains. D'ailleurs, vous êtes venu comment en Suisse ?
Tragique. Oui, en train, mais on m'avait oublié, j'avais pas de billet, mais enfin, ça fait rien, j'étais un peu clandestin, ça s'est arrangé à Dijon.
Et donc, vous avez publié un dictionnaire amoureux des trains.
Oui. Oui, oui. Les dictionnaires amoureux ont ceci de particulier qu'ils sont par définition subjectifs, personnels, injustes, exclusifs. Alors, ce dictionnaire amoureux des trains m'a amusé parce que j'ai eu enfin un alibi pour évoquer une de mes passions. Il faut dire qu'une fois par an, plus ou moins, je participe à la conduite d'une locomotive à vapeur avec des amis sûrs, je vous rassure. J'ai été conducteur des wagons-lits sur l'Orient Express de Paris à Istanbul quand j'étais journaliste à Paris Match. Et j'anime des voyages à thème parfois croisière ferroviaire de luxe, comme des transsibériens spéciaux. Et dans 15 jours, j'anime un voyage au Canada, dans l'Ouest canadien, à bord d'un des trains du transcontinental canadien. Je vous dirais simplement que pour la Suisse, la lettre la plus étonnante que j'ai reçue, c'est à propos des travaux et du tunnel du Saint-Gothard, d'une dame qui a déploré que je n'ai pas comptabilisé le nombre de boulons qu'avait nécessité la construction de cette voie en forme d'hélice, parce que c'est un record mondial. Si je les avais comptés, j'y serais peut-être encore. Alors donc, je m'en suis arrêté là. Et puis, dans la série des courriers insolites, j'expliquais au début des années 60 que dans les voyages en wagon-lit, avec soit mes grands-parents, soit mes parents, etc., sur les voies de la Yougoslavie de l'époque, et les aiguillages, on était un petit peu secoués, que j'expliquais, mais j'adorais cette musique du bruit des roues sur le fer des aiguillages qui disait ou l'acier, padam, padam. J'expliquais que j'admettais d'autres transcriptions phonétiques, et j'ai reçu une lettre d'une dame protestante. Monsieur Descartes, ça n'était pas padam, padam, mais padam, padam, padam. Je m'en souviens, c'était mon voyage de noces. Pas fait de commentaire. Voilà. Donc voilà, et puis enfin dans les recherches helvétiques, j'ai eu la chance en 1982, alors que je préparais la biographie sur Elisabeth d'Autriche ici, de trouver des archives de l'hôtel Beau Rivage de Genève que personne n'avait exploré. C'est-à-dire dans tous les voyages qui avaient été faits, etc., que j'avais fait dans toute l'Europe pour suivre les parcours de cette voyageuse. Je suis tombé par hasard, mais c'est un hasard, sur Jacques Maillère, qui m'a dit « Mais c'est ma grand-mère qui a fermé les yeux de l'impératrice. Tout est dans une pièce au quatrième étage. Rendez-vous demain pour y aller et là, trouver des merveilles. » Personne n'était jamais venu à l'endroit où elle était morte, au point de vue archive. Donc c'est une région qui est très chère à mon cœur. Voilà.
Merci pour cette présentation. Vous êtes ici particulièrement pour parler d'un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « Le sceptre et le sang », paru aux éditions Perrin. Donc on va s'entretenir pendant cette heure et demie sur ce livre notamment. Je rappelle peut-être les trois derniers ouvrages que vous avez publiés. Il y a « La saga des Habsbourg », »,« La saga des Windsor » et « La saga des favorites ». Donc vous êtes concentré ces dernières années sur des publications qui ont trait aux têtes couronnées et puis vous avez enfin, vous les traitez par, vous allez dire, humainement, c'est-à-dire en essayant de comprendre comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs leurs difficultés, leurs positions, leurs situations. Oui, ce sont
des biographies au sens propre, c'est-à-dire la vie des gens. Oui.
Voilà.
Pour les favorites, la mise à jour est toujours possible, du moins pour la France, puisque nous avons des candidates actuellement. Je réunis les dossiers, je les ai rencontrés. Voilà. Alors, les favorites n'ont pas forcément une mauvaise influence, pas forcément bonne non plus. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le pouvoir exercé seul, quelle que soit sa forme, est très déséquilibrant, y compris pour le protocole. Il pose des problèmes de table, de réception, etc. Et c'est vrai que ça n'est pas facile. Et bon, s'il n'y a pas de maître de maison, s'il n'y a pas de maîtresse de maison, c'est comme partout, ça peut se ressentir et avoir des conséquences symboliques. Voilà.
D'accord.
La reine d'Angleterre, dont je vais célébrer, pardonnez-moi, mercredi, sur la chaîne iTélé, la formation continue française à Paris, le record qu'elle va battre, en principe, si Dieu lui prête vie encore 3 jours, de son arrière-arrière-grand-mère, c'est-à-dire 67 ans, 63 ans de règne, 7 mois et 3 jours. La reine d'Angleterre a passé un dernier séjour en France très difficile, avec le président de la République qui, étant seul, s'est permis de s'asseoir 2 fois avant elle. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas en France. Curieux.
À ma gauche, j'aimerais vous présenter Bernard Lecomte, qui est également journaliste. Vous avez travaillé pour le quotidien La Croix, L'Express, et pour le Figaro Magazine. Vous êtes également blogueur. J'ai consulté votre blog. Hein, vous postez des petits posts comme ça, très rigolos, mais enfin, ils ne sont pas que très rigolos. Donc, je vous encourage à aller sur le net. Je crois que c'est bernardlecomte.blog.fr, quelque chose comme ça. Mais enfin, vous demanderez à Google et il vous dira. Et vous avez beaucoup écrit, vous, sur le Vatican. Et puis, sur le Kremlin. Et heureuse coïncidence, vous présentez ici à Morges 2 livres. Alors, le premier qui est également édité aux éditions Perrin, qui s'appelle sobrement Gorbatchev. Et le second, qui, lui, est sorti à l'enseigne des éditions Grund, Les papes qui ont changé l'histoire. Donc, c'est un livre richement illustré par Philippe Lorrain.
Magnifiquement illustré par Philippe Lorrain.
Magnifiquement et richement, en effet. Alors, durant cette heure et demie, on va pouvoir évoquer deux mondes qui se sont succédés et qui n'existent plus maintenant. Hein, les empires, à la tête de laquelle il y avait desquels il y avait des têtes couronnées, puis l'Empire soviétique qui a déjà disparu. On est en 2015, c'est-à-dire 101 ans après le début de la Première Guerre mondiale. Je pense qu'on a... On a du mal même à s'imaginer ce qu'était l'Europe, il y a encore peu de temps, hein, quels ont été les bouleversements. Alors, si vous voulez bien, on va commencer peut-être par poser le décor, et on va peut-être commencer par, avec vous, Jean Descartes. Imaginons que nous sommes en 1913, quel est l'état de l'Europe? Quels sont, si j'allais dire, si on considère que c'est une espèce de saga, quels sont les personnages principaux, les personnages secondaires, et dans quel... Dans quelle situation on se trouve ?
Bien, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Europe est majoritairement monarchique, en dehors de la Confédération helvétique, évidemment, et de sa neutralité traditionnelle. La France est la seule république qui sera impliquée dans le conflit par le jeu d'alliances, car elle n'est pas concernée directement. Ce sera notamment l'alliance franco-russe qui avait été élaborée après des années de préparation, finalement, par le tsar Alexandre III dans les années 1890. Je précise que c'était un climat très intéressant, car en fait, le déclencheur lointain était la parution en 1879 d'un fascinant roman de Jules Verne, Michel Strogoff, qui démontrait la nécessité d'avoir un chemin de fer à travers la Sibérie, au-delà de l'Oural, pour la Russie. Donc, cette alliance franco-russe existe. Il y a aussi une alliance franco-britannique. Il y a une triplice qui est l'alliance entre Berlin, Vienne, l'Autriche-Hongrie et plutôt mollement Rome, l'Italie, du roi Victor Emmanuel III. Mais il y a quelque chose qui est très, très intéressant, c'est que l'alliance franco-russe a brisé l'isolement diplomatique voulu par Bismarck après 1870, l'isolement diplomatique de la France. Donc il faut bien considérer que l'alliance franco-russe est une alliance, j'allais dire, politiquement contre nature, entre une république et un empire autocratique, que tout sépare, les degrés d'équipement, les mentalités, le passé, le tsar Alexandre III avait longtemps considéré les Français, ces républicains, comme des descendants idéologiques du meurtre de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Puis finalement, on s'aperçoit, les Français s'aperçoivent que la Russie est un marché fantastique qui a besoin d'équipements, de routes, de ponts, de chemins de fer, d'usines, etc. Et les Français sont des épargnants, à ce moment-là, remarquables, un petit peu changé depuis, qui sont prêts à ouvrir leur bas de laine et qui vont souscrire ces fameux emprunts russes. Alors je vous dirais tout de suite que quand on parle des emprunts russes qui ont ruiné nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, etc., avec des beaux titres dont pourraient tapisser tous les murs du bateau, je rappellerai simplement, parce qu'il y a eu une cérémonie en France récemment très émouvante, dans laquelle aucun responsable politique français gouvernemental n'a assisté, qui était le transfert des restes du grand-duc Nicolas, oncle du tsar, cérémonie orthodoxe aux Invalides, le 27 avril dernier, il n'y avait aucun officiel français, en souvenir du corps expéditionnaire russe envoyé par le tsar au secours de la France, qui était en mauvaise posture en 1916, après le soutien à la bataille de la Marne. Bon, disons que les poitrines russes et le sang russe a payé une partie des intérêts dus par la Russie, puisque Lénine n'a plus reconnaître les intérêts du tsar. Bon, nous avons des monarchies, une république depuis 1910, le Portugal à la suite d'un assassinat, et nous avons surtout quelque chose qui est invraisemblable. Comment est-ce que un incident de plus dans les Balkans, à savoir le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier successeur de François Joseph, et de son épouse, la jolie comtesse Kotek, dont je connais bien les descendants, comment cette affaire purement balkanique, comme il y en avait eu tant, va déchaîner une guerre mondiale? Eh bien, ce qu'ont oublié beaucoup de gens, qui vont l'oublier même au moment du traité de Versailles, c'est la solidarité spirituelle, notamment vis-à-vis de la Serbie par les Russes orthodoxes, pour résumer. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, ces questions sont très importantes. Et les plénipotentiaires du traité de Versailles, en voulant supprimer les religions, notamment Clémenceau, commettent une erreur épouvantable en supprimant des siècles de tradition. Donc, en fait, pour Nicolas II, tsar de Russie, la façon dont la Serbie a été gênée par l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par François-Joseph, alors que la Serbie devait prolonger, enfin, la Hongrie devait prolonger un peu l'Autriche, si je puis dire, jusqu'à la mer, tous ces domaines balkaniques, de la poudrière des Balkans, comme disait Bismarck, n'ont pas été pris en compte suffisamment à temps. Et il faut dire qu'en France, par exemple, l'attentat de Sarajevo ne fait pas la une. Il faudra 3 semaines pour qu'on s'en préoccupe, parce qu'à ce moment-là, il y a le procès de Mme Caillaux, oui, la femme du ministre des Finances, qui a tué d'une façon très chic d'un revolver caché dans son manchot le directeur du Figaro. C'était un scandale, un fait divers mondain qui était plus intéressant. Bon, là-dessus, nous avons la rivalité entre des parents. Ils sont tous parents. C'est effrayant, car ils vont tous se battre. Ils descendent par la reine Victoria, plus ou moins, du même rameau, cousin, oncle, neveu. Et pour terminer, je vous dirais, dans ce préambule, qu'est-ce qui a manqué pour calmer tout le monde? Il a manqué un homme comme Édouard VII, qui avec son, outre ses talents de vie parisienne bien connus, avec son sens diplomatique, son esprit de voyage, il allait voir, il les connaissait tous. Il savait très bien que Guillaume II, autre petit-fils, était théâtral, complexé par son bas, faisait des apparitions en changeant d'uniforme toutes les 10 minutes, était plus un matamor de théâtre que quelqu'un de foncièrement méchant. Il savait combien Nicolas II était effondré par la maladie de son fils, l'hémophilie et la dépression permanente de l'impératrice Alexandra. Bon, Édouard VII aurait fait le tour et aurait dit, à mon sens, après Sarajevo, on se calme. Mais malheureusement, Il était mort en 1910, et François Joseph est un homme qui règne, qui est digne, mais qui a régné trop longtemps et qui a accumulé tellement de malheurs que peut-être il n'a plus que le malheur comme programme. Il a pleuré, et il pleure Sissi, son fils Rodolphe, auquel je me suis intéressé, mort dans des conditions ô combien douteuses, avec une déstabilisation de l'Empire. Il a déclaré beaucoup de guerres, il les a pratiquement toutes perdues, Sadova contre la Prusse, 1866, etc. Donc, il déclare un ultimatum à la Serbie. Et je vais vous dire, mesdames, messieurs, quelque chose de très, très bouleversant. Le déclic, ce qui est effrayant, le déclic se situe dans un endroit où j'étais il y a 3 mois, lors d'une croisière historique que j'ai animée pour un magazine sur le Danube. Ce déclic, c'est dans le bureau de François Joseph à la Kaiservilla à Bad Ischl, où l'empereur se réveillait à peu près à 4 heures du matin avec son maître d'hôtel, son majordome Eugène Ketterl. Il allait toujours voir le temps qu'il faisait, et il ne voit pas l'orage politique qui s'accumule sur les Balkans. Et après un ultimatum lancé à la Serbie, l'ultimatum est rejeté. Et cet ultimatum est rejeté à une raison sur 24. La Serbie en accepte 23. Une est rejetée, la présence de policiers autrichiens dans la commission d'enquête sur l'attentat de Sarajevo. C'est ce qui déclenche la guerre mondiale, puisque Belgrade va être bombardée rapidement. Et en plus, il a signé cette déclaration, cette mobilisation générale, sous le portrait d'Elisabeth. Et qu'avait dit Elisabeth en 1890, notre cher Sissi qui a beaucoup erré par ici? L'orage éclatera dans les Balkans, personne ne l'a écouté. C'est donc une stupeur. Raymond Poincaré, en visite officielle en Russie, dit « Non, c'est pas possible, la guerre ne peut pas éclater. Non, on se calme. Les alliances. » Et un certain Rasputin envoie un télégramme au tsar Nicolas II, dont il est vraiment déjà le confident par Alexandra, si je puis dire, mais qui a pris une importance politique. « Tsar, si tu entres en guerre, la Russie sombrera dans le chaos. » Voilà donc à peu près l'état d'esprit à l'été 1914.
D'accord. Et Bernard Lecomte, comment réagit le Vatican? Quel est son rôle, s'il en a eu un? Le pape en place en ce moment, est-ce qu'il essaye? Quel était d'ailleurs son rapport avec les autres souverains? Est-ce qu'il essaye d'avoir une médiation?
La question pourrait être posée à chaque moment de l'histoire de ces 2000 ans. C'est pour ça qu'elle est formidable, votre question. Effectivement, quand on écoute Jean Descartes, quand on lit un manuel, quand on s'intéresse à la situation, on pense rarement au pape. Or, bien sûr, en fonction de sa situation, en fonction de l'importance de l'Église catholique, de l'institution, évidemment que c'est très très important de jeter un œil sur ce qui se passe à Rome à ce moment-là. Au moment où la guerre 14 éclate, août 14, c'est un pape qui s'appelle Pie X, qui a été canonisé, on dit Saint Pie X en principe, et qui a été un pape très sympa, très agréable. C'était le premier pape pauvre de l'histoire moderne, ce qui n'est pas banal. Et cet homme-là, qui a été élu en 1903 dans des conditions un peu compliquées, et par défaut, en réalité, c'est un brave homme, très saint, très croyant, qui a eu des bonnes idées sur le plan, par exemple, de la communion pour les enfants. Il a restauré le chant grégorien, il a fait des choses comme ça. Mais alors, politiquement, c'était une catastrophe. Car ce pape-là, qui avait un entourage très réactionnaire, pour être tout à fait clair, va revenir à des vieux démons de l'Église du XIXe siècle qui tournent autour d'un texte très fameux qui s'appelle le Syllabus. Et le Syllabus, c'est un texte de Pie IX, donc un texte du milieu du siècle, mais surtout, c'est le symbole même du Syllabus est tout à fait clair, le Syllabus condamne les 80 idées modernes de son temps. C'est-à-dire que le Syllabus, c'est un retour en arrière complet d'une Église perturbée par la Révolution française, par le printemps des peuples, par la montée des nationalités, etc. Et cette Église, sur la défensive, va sortir ce Syllabus, alors au milieu du 19e. Bon, après, le Vatican perd ses États, hein, 1870, l'Italie expulse en quelque sorte le pape de sa capitale, le pape se retrouve prisonnier au Vatican, Pie IX meurt, il y a un très grand pape qui lui succède, qui s'appelle Léon XIII, très connu des Français parce que c'est le pape qui a invité les Français catholiques à reconnaître la République, ce qui n'était pas banal. Et Léon XIII, très grand pape, qui meurt en 1903, très très âgé. Et puis ce pape pauvre, fils de paysan, pas très cultivé, et qui est entouré par des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de revenir à ce que disait Pie IX. Et donc il y a une très mauvaise période politique pour l'Église à ce moment-là. On appelle ça la querelle moderniste. C'est-à-dire tout ce qui était moderne, on était contre. Et vous savez que quand l'Église décide de tacler ce qui est moderne, elle peut aller très très loin quand même. Hein. Quelques années avant, elle avait refusé qu'il y ait un chemin de fer au Vatican, parce que le chemin de fer, c'était pas bien. Donc quand l'Église a cette position-là, elle perd beaucoup de terrain et elle pose beaucoup de problèmes. Ce pape Pie X, sans venir la guerre 14. Il a un instinct, il a une générosité, il a un caractère extrêmement expansif, très, très, comment dirais-je, très sentimental, quelque part. Et il meurt au mois d'août 1914. C'est-à-dire qu'il meurt au moment où la guerre commence. Et il meurt dans des conditions donc extrêmement douloureuses. Il le dit d'ailleurs, et à la fin, à l'agonie, il dit je donne ma vie pour la paix dans le monde. Enfin, c'est un pape qui, sur le plan personnel, est très émouvant, très intéressant. Et le conclave. Puisque quand un pape meurt, on réunit le conclave. Le conclave se réunit. Nous sommes donc fin août 1914. Et il y a des cardinaux allemands, des cardinaux français, des cardinaux belges, des cardinaux autrichiens, des cardinaux hongrois. C'est-à-dire que dans le conclave se retrouvent des représentants de toutes les nations qui sont en train de commencer la guerre mondiale. Ce qui complique quand même sérieusement les choses. Et on a des témoignages des cardinaux qui se rencontrent. Alors il y a le Belge qui dit, plutôt l'Allemand qui dit au Belge « J'espère que nous n'allons pas parler de la guerre. » Et le Belge qui dit « J'espère que nous n'allons pas parler de la paix. » Parce qu'à ce moment-là, les armées allemandes viennent de déferler sur la Belgique. Et le pape qui est élu porte un nom prédestiné, il s'appelle Della Chiesa, c'est-à-dire de l'Église, et c'est très, très important, c'est un diplomate de métier. Il a une carrière de diplomate. Tous les papes n'ont pas voyagé à cette époque-là. Lui, il connaît le monde. C'est un vrai diplomate, et un diplomate de talent. Il est d'ailleurs élu pour ça. Et dans les tout premiers jours de septembre 1914, il devient pape, et il fait ce que tout pape ferait à sa place. Et je vous demande de bien noter ça. Ce que Pie XII va faire exactement dans les mêmes conditions en 1939, c'est-à-dire qu'il proclame la neutralité du Saint-Siège. C'est très très important parce que le pape se rend bien compte que les armées qui sont en train de démarrer la guerre, que Jean vient de décrire, ce sont des armées de pays de culture catholique. Ce sont des chrétiens. Il dit l'Europe devient un bain de sang chrétien. Les Allemands, les Français, les Autrichiens, les Italiens, tous ceux dont Jean vient de raconter la présence dans cette affaire, ce sont des chrétiens. Donc le pape se retrouve à la tête de nations qui sont de culture chrétienne. Et donc il proclame la neutralité. Or, la neutralité du Saint-Siège, il faut bien dire qu'on ne voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre que de proclamer la neutralité du Saint-Siège dans ce cas-là. Sauf que la neutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas comme ça, condamner les uns contre les autres, prendre parti pour les uns ou pour les autres. C'est ça le principe de la neutralité. La neutralité, c'est un principe diplomatique très très précis. Il y a une convention internationale, etc. C'est pas rien, là. Il ne suffit pas de dire « oui, on est neutre ». Non, non. Le pape ne peut pas intervenir sur tel et tel sujet. L'une des premières manifestations de cette guerre, c'est l'invasion des armées allemandes en Belgique, où, entre parenthèses, on n'a jamais compté autant de bonnes sœurs violées que pendant cette attaque allemande en Belgique, car tous les couvents y sont passés. Ça a été une horreur absolue. Et ensuite, les Allemands, vous vous rappelez sûrement, descendent ensuite vers la France, arrivent à Reims et bombardent la cathédrale de Reims. Ça a l'air de rien, c'est pas du tout un petit épisode. Parce que les Allemands bombardant la cathédrale de Reims, quand on sait l'importance symbolique que la cathédrale de Reims, cathédrale des Sacres, a pour les Français, c'est un acte de guerre extrêmement fort. Et les Français catholiques se rendent compte que le pape, pas un mot sur la cathédrale de Reims. Les Allemands bombardent cette cathédrale, le pape ne dit rien. Et là, c'est le début d'un malentendu absolument extraordinaire. C'est que la population française se dit « Mais ce pape, finalement, il sert à quoi ? Puisqu'il est incapable de distinguer l'agresseur de l'agressé. » On va entendre ça en 1939, hein, après. Mais c'est la même chose. Et le pape, alors c'est Clémenceau lui-même, d'ailleurs, qui dit « De toute façon, ce pape, c'est un pape boche. » Pendant que Ludendorff, le chef d'état-major de l'armée allemande, qui, lui, effectivement, constate qu'il y a beaucoup de contacts, de relations entre ce pape et les Français, dit « De toute façon, ce pape, c'est un pape français. » Voilà. Donc vous imaginez la position, la situation du pape au début de la guerre 14-18, quand les Allemands le considèrent comme un pape français et comme les Français le considèrent comme un pape boche. Voilà, si vous voulez, la situation de la papauté au début de la guerre 14. Elle va très rapidement... Elle va évoluer, parce qu'encore une fois, la papauté, c'est pas rien. C'est des centaines de milliers de gens, c'est des dizaines de milliers de prêtres, c'est des congrégations, ce sont des évêques, ce sont des nonces apostoliques, c'est un monde fou. Hein. Des espions aussi, beaucoup. Et le pape va essayer de rattraper ce terrible début, qui est une catastrophe, en réalité, pour l'Église catholique. Catastrophe. Alors, il va essayer de faire des choses. Il va essayer de demander une trêve à Noël, qui ne va pas marcher. Il va lancer un plan de paix en 1917, qui arrive un peu trop tard. Tout le monde dit, il est bien gentil, le pape. Enfin, les cinq puissances concernées à l'époque, les cinq vont dire, bien gentil, le pape, mais c'est trop tard. Tant pis. Et la fin de la guerre 14 arrive. Le pape s'attend à faire partie, évidemment, des gens à qui on va demander son avis pour régler l'affaire. Congrès, le traité de Versailles, Trianon, etc. Et là, le pape découvre qu'il n'est pas invité. Le pape qui était pourtant, le siècle précédent, présent, le Vatican était au congrès de Vienne, rappelez-vous, le secrétaire d'État, Ercole Consalvi, qui retrouve tous les états pontificaux, c'est une histoire formidable. Là, c'est une catastrophe absolue. Le pape disparaît. Pourquoi ? Parce qu'au moment du traité de Londres, lorsque les Italiens acceptent enfin de participer à ce qu'on appelle, je crois, genre la triple entente, c'est ça qu'on l'appelait comme ça. Quand les Italiens acceptent, c'est à une condition. Ils disent aux Anglais, aux Français et aux Russes, ils vont dire à ces trois-là, nous, on marche avec vous, mais on ne veut pas du pape à la fin de la guerre. À l'époque, rappelez-vous, l'Italie vient d'exclure le pape de son territoire. Le pape est prisonnier au Vatican. C'est une lutte, c'est un bras de fer extraordinaire. Et le pape se retrouve en effet, mais c'est secret, personne ne connaît ce traité de Londres, en tout cas cet accord. Et le pape se retrouve à la fin de la guerre, exclu de toutes les négociations internationales. C'est la première fois que ça se passe depuis 2000 ans. On n'a jamais vu un truc pareil en Europe sans la présence du pape, de l'Église, etc. Et voilà un peu en quoi la guerre 14 a été un révélateur extraordinaire pour l'Église, un accélérateur de modernisation, de modernité, et en même temps, une catastrophe diplomatique.
Je crois que vous vouliez réagir, Jean-Décart.
Oui, c'est tout à fait remarquable comme rappel, en effet, de la part de Bernard. Je me permets d'ajouter deux choses. Par rapport, effectivement, à cette Europe chrétienne au sens large, mais il ne faut pas oublier que la cause, j'allais dire, géopolitique de la guerre de 14-18, ce sont les démembrements de l'Empire ottoman, qui perd son manteau petit à petit et dont les Européens se partagent déjà les dépouilles. Ça a commencé, on l'oublie souvent, en 1911, avec la campagne du roi d'Italie. Voilà un personnage intéressant qui va quand même régner de 1900 à 1946. Le tout petit roi. Il est si petit que Hemingway raconte dans L'Adieu aux armes, « Ah, j'ai vu passer le roi, ça doit être lui, parce qu'entre deux officiers, on devine à peine un képi. » C'était le roi qui faisait moins d'1m48. Bien. Vous avez ces démembrements avec la tentative de reconstituer un empire romain. Nous sommes en 1911, avec les premiers bombardements aériens. On oublie ça. Vous avez les deux guerres balkaniques avec le prince de Monténégro, le roi de Monténégro qui envahit l'Albanie. L'erreur totale, c'est de croire que des tout petits pays, des confettis, nous dirions aujourd'hui, ne peuvent pas avoir de grandes conséquences, sauf que quand on a comme voisin la Serbie qui est orthodoxe, sous la surveillance spirituelle de Saint-Pétersbourg, ça concerne du monde, que le monde germanique de Guillaume II s'est étendu au nord et a obligé François-Joseph à aller vers les Balkans, que s'il y a une Bulgarie, S'il y a un tsar des Bulgares, c'est grâce à l'Autriche-Hongrie. Enfin, toute une série de combinaisons qui n'ont absolument pas été prises en compte. Et effectivement, dans cette affaire, le monde chrétien, à l'été 14, se trouve en fait entraîné avec la décomposition de l'Empire ottoman, ce que Chateaubriand appelait déjà la question d'Orient. Donc ça, c'est très, très important. Et je vous dirais que aujourd'hui, la situation des Balkans, bah, dans le fond, ça reste la même chose, c'est-à-dire des haines, des frustrations, les traités de paix qui ont été catastrophiques parce qu'ils ont ignoré, si vous voulez, des réalités. Clémenceau déporte 3 millions de Hongrois et en fait des Roumains. C'est l'origine du problème des Roms aujourd'hui. Donc, tout le monde a oublié une chose. Napoléon disait, messieurs, en histoire, ce qui ne change jamais, c'est la géographie. Et il faut regarder la guerre, la Première Guerre mondiale, avec une carte de géographie. C'est très, très important de voir quelles étaient les influences. Les Russes, par exemple, voulaient toujours avoir le contrôle des détroits, le Bosphore et les Dardanelles. Ben, ça a été le rêve depuis Pierre le Grand, Catherine II, jusqu'à Staline et Brejnev pour faire passer les sous-marins sous le Bosphore. Bien. Donc il y a des constantes, et c'est, je suis toujours, si vous voulez, consterné que ces tragédies absolument hallucinantes n'aient pas servi de leçon. J'étais donc il y a 3 mois sur le Danube, et il y a un village qui, en raison du traité de Trianon, 4 juin 1920, est partagé entre la Roumanie et la Hongrie. Ils se haïssent, les gens. Si c'est tout ce qu'on a trouvé au traité de Versailles, alors heureusement, je terminerai cette intervention là-dessus, au traité de Versailles, il y a quelque chose de fabuleux. Arrive une des plus belles femmes d'Europe, la reine Marie de Roumanie. Elle a fait raccrocher sa voiture salon à un train pour arriver à Versailles. Elle est furieuse que les souverains ne soient pas, invités à négocier. Alors, question de pouvoir constitutionnel, avec une particularité, c'est la première fois qu'un président des États-Unis se trouve à bord, si je puis dire, du traité. Il est à la fois chef d'État et chef de gouvernement, devant répondre au Congrès de ses décisions. Donc Raymond Poincaré dit « Pourquoi j'y suis ?» Ah ben non, c'est Clémenceau, le président du Conseil, qui a le pouvoir, etc. La reine Marie de Roumanie plaît beaucoup à Clémenceau parce qu'elle est belle, elle trompe son mari avec talent, donc ça plaît beaucoup à Clémenceau. Et le mari, le roi de Roumanie, a beaucoup d'esprit. Quand il voit un homme qui sort de la chambre de sa femme à 6 heures du matin, au lieu de le provoquer en duel, il lui dit « Monsieur, étant donné l'heure où vous quittez les appartements de Sa Majesté, vous êtes soit son confesseur, soit son médecin. C'est un homme de goût. » Bon. La reine Marie vient protester pour réclamer une partie de la Dobroudja qu'on veut attribuer à la Hongrie, à la Bulgarie, enfin, etc. Bref, le manteau des Carpates, si vous voulez. Et elle est très francophile. Elle est déjà décorée de plusieurs distinctions formidables. Elle écrit un français si parfait que la grande Colette l'a interviewée pour le journal Le Matin dans son train et est montée à bord à toute vitesse. Et elle réclame donc son territoire. Elle dit « Monsieur le Président, je suis après tout le premier fonctionnaire de mon royaume et le plus mal payé. Mais Madame, votre Majesté réclame la part du lion. Oui, et c'est pour cette raison que je suis venu voir son cousin, le tigre. Ça, c'est quelqu'un, la reine Marie de Roumanie. »
Donc on a parlé de Pie X, et si on parlait de son successeur, c'est-à-dire Pie XI, qui devient pape en 22. Alors Bernard Lecomte, vous avez dit qu'il a, en 39, il a déclaré la neutralité du Vatican, mais par contre il a quand même une attitude très différente, qui est pour le coup pas neutre, puisqu'il condamne sévèrement l'antisémitisme, le nazisme, et puis également Mussolini. Il n'est pas du tout tendre. Il a écrit un, voire deux encycliques là-dessus.
Pie XI, c'est un... Je suis content que vous me posiez la question de Pie XI, parce que souvent on pose la question de Pie XII, le pape sur lequel on parle beaucoup, c'est Pie XII. Or, Pie XI, qui est juste avant, donc Pie XI est élu en 1922, à la mort du Benoît XV dont nous parlions tout à l'heure, et il va mourir en mars 1939. Pie XI, c'est le contraire de Benoît XV et de Pie X. Lui, c'est un intellectuel, c'est un sportif, c'est un pragmatique, c'est un politique. La première trace, si on cherche des traces de Pie XI, la première trace, c'est un panneau, une espèce de poteau avec un panneau, en bas du Mont Blanc, Quand vous escaladez le Mont Blanc par l'Italie, côté italien, c'est, certains sont peut-être alpinistes parmi vous, il y a un panneau qui s'appelle la voie du pape. Et la voie du pape, c'est en effet la voie pour escalader le Mont Blanc côté italien. Et ce pape, à l'époque, il s'appelait Achille Ratti et c'était le futur Pion. C'était un sportif de haut niveau, comme on dit aujourd'hui. C'était un grand alpiniste. Et ce sportif de haut niveau est aussi un bibliothécaire passionné. Passionné de livres, passionné de bibliothèques. D'ailleurs, il va faire une carrière d'abord en bibliothèque. Quand il devient prêtre, il travaille beaucoup, c'est un intellectuel, c'est un prof, un enseignant, et on va lui confier, quand il sera évêque, la bibliothèque de Milan, la bibliothèque Ambrosiana. C'est la grande bibliothèque de l'Église, des milliers, des centaines de milliers de livres. Et lui va être donc le patron de cette bibliothèque-là. Et puis il va tellement bien s'en sortir que petit à petit, il va être repéré justement, Ratti, et on va lui dire, on a besoin de quelqu'un pour la bibliothèque Vaticane. Et il va s'occuper de la bibliothèque Vaticane. C'est ça la carrière de Ratti avant de devenir Pie XI. Donc une carrière de sportif de haut niveau et de passionné de bouquins. Voilà le pape qui arrive à ce moment-là. Il est élu en 1922. Il a eu un passage par Varsovie, à un moment, c'est très important. Il a été délégué apostolique à Varsovie à la fin de la guerre, 14-18-19, hein, parce qu'à Varsovie, la guerre, c'était après les bolcheviks en 1919. Donc il connaît l'Europe, il sait la guerre, tout ça, il connaît. Mais lui, c'est encore une fois un intellectuel pragmatique qui va être le grand pape politique de ce siècle, en tout cas de cette partie du siècle, parce qu'il va être emporté par les sujets dont nous parlions depuis tout à l'heure, les grands équilibres stratégiques, les grands équilibres géopolitiques. Il va voir tout ça. Et il va avoir un rôle majeur, parce que, je vous ai dit, en 1918, l'Église catholique, elle est mal barrée. Elle a été exclue des grands courants de pensée politique, diplomatique, etc. Et Pie XI va lui redonner d'abord une diplomatie, ensuite une existence en texte. C'est un homme qui écrit beaucoup, qui s'entoure de penseurs, de politiques, etc. Et il va notamment réagir, c'est peut-être ce qu'il va laisser de plus important dans l'histoire, il va réagir aux grandes menaces qui pèsent sur l'Europe à ce moment-là. Il va faire une encyclique. Une encyclique pour un pape, c'est le texte le plus important. On ne peut pas faire plus important qu'une encyclique quand on est pape. On peut faire des motu proprio, des brefs, des tas de trucs comme ça, des lettres. L'encyclique, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il fait une encyclique pour condamner le fascisme. Ce qui est très très important, que le pape condamne le fascisme. Le pape, il est quand même à Rome. Il a d'ailleurs, son encyclique est rédigée en italien. Donc on voit bien que c'est pas gratuit, hein, que ça s'adresse bien à un certain nombre de gens. Et il condamne, en effet, le fascisme. Et puis ensuite, ça c'est en 1934. Et en 1937, il va publier deux autres encycliques. Une encyclique qui condamne le nazisme, qui est évidemment capitale en 1937. Vous voyez bien la progression, hein, on est deux ans avant la guerre. Et dans la même semaine de Pâques, entre les Rameaux et Pâques, une encyclique condamnant le communisme. C'est évidemment capital qu'il ait publié ces deux encycliques la même semaine. Parce que s'il n'en avait fait qu'une, ça aurait été catastrophique sur le plan de l'image de l'Église qui aurait penché dans un côté ou d'autre. Non. Et ces encycliques sont des textes extrêmement forts, extrêmement politiques. C'est un pape extrêmement politique. Il va préparer une dernière encyclique, mais qu'il n'aura pas le temps de signer, sur le genre humain, qui est une encyclique commandée par lui, clairement, il n'y a pas d'ambiguïté. Il commande ça à un jeune prêtre américain, un jésuite américain, qui s'appelle Lefarge, et il lui dit, voilà, préparez-moi un texte pour une encyclique condamnant le racisme. On est en 1937-38, hein, vous voyez. Et donc ce pape, alors malheureusement, cette encyclique, elle va être prête au début de l'année 1939, mais lorsque Pie XI meurt, elle n'est pas signée. Et la tradition, dans toute l'histoire de la papauté, la tradition, c'est que quand un pape meurt, on nettoie son bureau, parce que on pourrait manipuler n'importe qui, n'importe comment, si un texte pas signé était attribué au pape. Non, on comprend que si le texte n'est pas signé, ce texte va aux archives. C'est clair. Il y a trop de risques de manipulation. Et donc cette fameuse encyclique condamnant le racisme et l'antisémitisme dans le même temps, parce que c'était évidemment la même logique, ce texte n'a jamais été adopté. Alors ça, il va y avoir des polémiques, parce que le secrétaire d'État de Pie XI, c'est le futur Pie XII. C'est Eugenio Pacelli. Et Eugenio Pacelli, il y a des polémiques en disant « Oui, mais lui, il n'avait pas très envie, etc. » Alors là, on peut ouvrir ces polémiques-là, si ça vous intéresse, revenir là-dessus tout à l'heure, si vous voulez. Mais il faut être clair, Eugenio Pacelli, le secrétaire d'État de Pie XI, c'est lui qui a écrit l'essentiel de ces fameuses encycliques contre le fascisme, contre le nazisme, contre le communisme. Donc, Pacelli n'est absolument pas suspect de jouer un rôle un peu trouble dans cette affaire. On pourra revenir encore une fois sur le sujet, parce que c'est un sujet magnifique, le sujet de Pie XII. Mais Pie XI, voilà. Et Pie XI termine sa vie de façon absolument dramatique. En 1937, justement, au moment de ses encycliques, il a failli mourir une première fois. Et on considère que c'est un miracle s'il a survécu et qu'il a justement publié, signé ces deux fameuses encycliques de 1937. Il se remet. En 1938, il vit à peu près normalement, mais sa santé faiblit. Et en 1939, il va mourir dans des conditions qui rappellent, donc 1939, juste début de la guerre, qui rappellent 10 ans avant, 1929, la conclusion des accords de Latran. C'est un texte capital, c'est le texte qui permet à l'Église, en négociant avec le pouvoir italien, c'est Mussolini à l'époque, mais en tout cas c'est le pouvoir italien, de négocier son existence juridique. Les accords de Latran, c'est tout simplement la création de la cité du Vatican. La cité du Vatican, c'est un État créé par ces accords-là, donc en février 1929, entre l'État italien et l'Église. L'Église retrouve un petit territoire de 44 hectares. 44 hectares, c'est le cinquième de la principauté de Monaco. Hein. C'est rien du tout. C'est vraiment rien. Ceux d'entre vous qui sont allés à Rome savent que le Vatican, c'est tout petit en réalité. On en fait le tour très vite. Et puis il y a les grandes basiliques. Et puis il y a Castel Gandolfo. Voilà, c'est ça, 44 hectares. Et donc, ces accords du Latran, Pie XI les a très très bien négociés. Ce que Benoît XV n'avait pas fait, ce que Pie X n'avait pas fait, ce que Léon XIII n'avait pas fait. Lui, il a réussi à remettre en fait l'Église institution sur les rails du monde. Et donc ces accords de Latran sont négociés avec Mussolini. C'est important parce qu'en 1939, Mussolini est au pouvoir en Italie, naturellement. Et le dixième anniversaire des accords de Latran va mettre en présence Mussolini et le pape. Et le pape, Pie XI, sait que ça va être quelque chose qui va être regardé par le monde entier, ça va être une entrevue très très spéciale quand même. Et il prépare un texte vengeur, un texte très dur contre Mussolini, sur le thème « vous n'avez pas respecté vos engagements », etc., etc. Et le pape, alors autour du pape, on dit, vous savez, très sympa, c'est quand même un peu gonflé ce que vous allez faire, etc. Puis vous n'êtes pas en bonne santé, etc. Bon, très bien. Et le pape s'accroche au truc et il écrit de sa main. Et dans la nuit du 9 au 10 février, 5 heures du matin, il tombe sur son texte. Et son texte ne verra pas le jour non plus. Ce texte qui était une espèce de dénonciation de ce que Mussolini avait fait pour la société italienne depuis 10 ans. Et le pape meurt à ce moment-là. Et là aussi, polémique. Là aussi, fantasme. Vous savez, avec le Vatican, c'est simple. À chaque fois qu'il y a un fait divers ou une mort compliquée, il y a des fantasmes. Ça part dans toutes les directions. Alors ça, moi, je me régale hein, comme journaliste. Mais là, pour le coup, il y a quelqu'un dont vous avez entendu le nom qui s'appelle Eugène Tisserand. Eugène Tisserand, ça vous dit peut-être quelque chose. Ça a été un très grand cardinal français. Et Eugène Tisserand était à l'époque, en 1939, il était déjà à la Curie, il était déjà présent. Et Tisserand a toujours été convaincu qu'en réalité, Pie XI avait été empoisonné. Et Tisserand va vivre assez longtemps, et sur son lit de mort, dans les années 60, donc beaucoup plus tard, il va commencer à dicter ses mémoires à un prêtre qu'il a convoqué, et lui, l'ancien doyen du Sacré Collège, etc., va dicter ses mémoires. Et il dit au prêtre, et vous allez voir que dans ce texte, je vais tout dire sur l'assassinat de Pie XI. C'est pas rien, l'ancien doyen du Sacré Collège, Eugène Tisserand, c'est pas un petit journaliste de banlieue, là. Hein. On est dans le top du top, et c'est très très important. Et ce prêtre est très très paniqué, d'ailleurs. Et Tisserand commence à parler et meurt. Et donc le prêtre dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'est le père de la maîtresse de Mussolini, qui était médecin au Vatican. Et donc, qui avait accès à des armoires, au palais, etc. Et c'est ce médecin qui, selon Tisserand, aurait versé du poison dans les médicaments du malheureux pape Pie XI. Aucun historien, et Dieu sait que cette hypothèse a été travaillée, évidemment, c'est tellement énorme, ça voudrait dire que Mussolini a assassiné le pape, quand même, c'est pas rien. Donc, beaucoup, beaucoup d'historiens italiens, notamment, ont travaillé là-dessus. Aucun n'a pu corroborer cette thèse. Donc on peut estimer que Tisserand, il pensait sûrement sincèrement ce qu'il croyait, mais que peut-être il pouvait se tromper aussi. D'autant que l'entourage de Pie XI dit, attendez, dans l'état où il était, il n'avait pas besoin d'être empoisonné, de toute façon il allait mourir. Hein. Bon. Donc voilà un petit peu l'histoire de Pie XI, pape extraordinaire, pas connu, pas du tout canonisé, béatifié. Vous voyez, l'Église a canonisé Pie X, a canonisé Jean XXIII, a béatifié Paul VI, a canonisé Jean-Paul II. Il y a un dossier sur Pie XII qui est très controversé, mais c'est un vrai dossier de béatification. Pie XI, personne n'a jamais parlé de le béatifier, de le canoniser. Il faut dire qu'il piquait des colères noires, que c'était un personnage assez humain. Et ce pape-là, moi, je trouve que c'est peut-être le plus important du XXe siècle.
Je suis ravi, Bernard, que vous parliez du cardinal Tisserand, que j'ai connu, que mon père connaissait. C'était un personnage très, très impressionnant. Et il se trouve que dans des archives diplomatiques du Vatican, après 25 ans de recherche, j'ai pu trouver le télégramme codé de François-Joseph au Vatican, nous sommes en 1889, affirmant que Rodolphe a été assassiné. L'énigme de Meyerling. Ce qui avait été dissimulé. Bon, alors, ce n'est pas notre débat ici, mais ce qui est intéressant, c'est sans aucun esprit, comment dirais-je, de conspirationnite grave, d'une véritable pathologie, lorsque j'ai énoncé ça à la télévision, en direct du territoire de la Principauté de Monaco pour un débat sur les dossiers de l'écran. Pourquoi avait-il lieu à Monaco? Je n'en sais rien. Mais ayant prévenu le réalisateur, le présentateur, les producteurs, en disant « je voudrais une caméra sur un objet important que je vais montrer », curieusement, il y a eu une panne d'image et de son sur moi, sauf sur le territoire monégasque, parce que ça aurait été un peu trop gros. Et quand j'ai demandé une copie à mes frais du master il y a 2 ans à l'INA, on m'a dit « malheureusement, il y a eu un problème technique ». Donc, nous sommes dans cette tradition. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qui est effrayant dans le problème de la Première Guerre mondiale, c'est que les leçons ne sont pas retenues. Bon, l'aveuglement idéologique de Clémenceau, qui veut ne rien devoir aux monarchies, aux Bourbons notamment, et qui refuse la négociation de paix séparée, qui passe par la Suisse. Et j'ai retrouvé les archives des descendants des gens dans une maison de Neuchâtel, où il y a une plaque, qui raconte les émissaires de Charles Ier, le mari de Zita, l'impératrice Zita et reine d'Autriche, la dernière souveraine qui m'a reçu pour le Figaro Magazine à Vienne le 10 novembre 1982, où elle revenait après 63 ans d'exil. C'est pas rien. Bon, on ne retient rien et au traité de Versailles, on n'invite pas l'Allemagne à la table des négociations. On lui impose des conditions économiques épouvantables. Les Britanniques disent rapidement à Clémenceau « Monsieur le Président, vous avez gagné la paix, vous allez être le père, la victoire, P-E-R-D. » On entend parler d'un certain Hitler après l'affaire de la Rhénanie qui aurait pu être réglée où la France a été lamentable. Et un sujet de sa gracieuse majesté dit dans un dîner à Londres, mais enfin cet Hitler, je ne comprends pas. Il est bavarois, il est autrichien, il ne parle que de l'Allemagne, où est-il né? Lady Astor, qui n'a pas sa langue dans sa poche, répond, Hitler, il est né à Versailles. Ce qui est un très très grand mot, il montre bien. La naïveté, il y a une fatalité d'ailleurs, Bernard, vous l'avez remarqué bien sûr, c'est que les deux présidents américains pendant les deux guerres mondiales sont des âmes malades. C'est effrayant, parce qu'ils n'ont pas toutes leurs capacités. Wilson est une sorte de saint laïque, et ce sera épouvantable pour lui, puisque le Congrès américain va refuser, dans le fond, les négociations de paix, va refuser l'entrée de la Société des Nations pour les États-Unis, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? On a fait le lit des totalitarismes, Hitler et Staline, qui vont jouer sur les frustrations, sur les rancœurs. Ça, c'est absolument épouvantable. Malheureusement, le diktat de Versailles, ça n'est pas une invention. Hitler, hélas, avait raison. Alors, je passe parce que
et peut-être
ce paysage est
super. Si on revenait sur la situation des monarchies.
Des monarchies. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui est assez étonnant. En 1943, le roi Boris III de Bulgarie est convoqué à Berchtesgaden par Hitler, qui lui demande de promulguer d'urgence des lois anti-juives. Le souverain refuse. Il est en parfaite santé. Curieusement, après son retour, il a des problèmes respiratoires dans son avion. Il meurt. Son fils, Siméon, qui a à peu près 5 ans, est proclamé roi, mais évidemment, il y a une régence. Chute des monarchies d'Europe centrale avec l'arrivée du communisme après 1945, même chose pour la Roumanie. 45 ans passent. 45 ans. La Bulgarie, qui sort de la pétaudière communiste, appelle Siméon, le roi, au secours comme premier ministre. C'est déjà un destin étonnant. Le roi premier ministre, qui va remettre de l'ordre dans le pays, dans des conditions très difficiles. C'est un homme impressionnant que je connais, qui a beaucoup d'allure. 2002, obsèques de la reine-mère d'Angleterre, la fameuse Queen Mum, qui mettait des chapeaux, comme on le sait, des couleurs, parce qu'elle disait « je suis là pour qu'on me voie ». Ça, on ne risquait pas de la rater. Bon. Enfin, Hitler et Staline l'ont raté néanmoins sur le plan des bombardements, ça c'est autre chose. Et obsèques. Le roi Siméon, premier ministre de Bulgarie, de la République bulgare, est avec ses confrères, si j'ose dire, le chef d'État, le gouvernement, on va dire républicain en l'occurrence, entre autres. Ensuite, déjeuner privé au château de Windsor, organisé par la reine Elisabeth II, qui prend Siméon à sa droite, ce qui est un grand honneur. Et le roi de Norvège, Harald VII, le roi actuel, dit à Siméon, bien revenu au club. Eh bien, mesdames, messieurs, figurez-vous, là, vous pouvez gagner un pari fantastique. Je vous donne le tuyau à condition de partager avec moi. Il y a encore aujourd'hui quelqu'un de vivant qui porte légitimement le titre de tsar. C'est Siméon, tsar des Bulgares, en 2015. Faites la colle, vous allez voir ce qu'on va vous répondre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je dirais, les monarchies, qu'est-ce que c'est ? Il y a eu un vent de jeunesse sympathique, c'est normal. Comme me l'a dit un souverain, me dit, nous donnons un visage à l'avenir. Il y a tellement d'incertitudes en politique, et puis si ça ne marche pas, les révolutions sont faites pour ça. C'est assez intéressant parce que les gens qui ont besoin de stabilité, alors vous avez des gens très intéressants, comme la reine Margrethe de Danemark, que je connais, qui reçoit toujours son premier ministre debout. Si ça se passe mal, il s'assoit au bout de 5 minutes. Voilà quelqu'un qui lui a dit, monsieur le Premier ministre, j'aimerais que les populations étrangères parlent danois. C'est une langue légitime. Bien. Vous avez, bon, évidemment, la reine, le must de la reine qui est Elisabeth II, parce que là, c'est fabuleux. Depuis 1942, où elle avait les dépêches comme princesse héritière avec son père à Buckingham, la mort de George VI en 1952, son couronnement en 1953, le premier film en couleur, etc. Une femme qui a vu passer tout, sans pouvoir réellement dire, et la seule fois où elle a fait un commentaire sur un premier ministre, ce qui ne se fait pas, c'est Churchill, qui avait été son mentor, elle avait 26 ans, et elle a dit d'un mot merveilleux en anglais, il était divertissant. On ne peut pas dire mieux pour Churchill. Bon. Alors, dernier point sur Churchill, parce que je ne peux pas résister, mais ça concerne la guerre. Un dîner en 1964-65. Churchill est très très âgé, très malade. Il a quitté le pouvoir, bien sûr. Sir Winston, Lord de la Gentillesse, tout ça. Il y a un dîner à l'ambassade britannique à Paris qui est offert sur ordre par son gendre, Christopher Soames, et les deux hommes se détestent. Le beau-père, Churchill, et le gendre, l'ambassadeur de la reine, au sens stricto sensu. Une de mes tantes, veuve d'un ambassadeur, assistait à ce dîner, et quelqu'un dit, sous le portrait de la reine, « Sir Winston, quel est finalement l'homme que vous admirez le plus de tous ceux que vous avez rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Alors le vieux pachyderme ouvre un œil d'éléphant, mais étant réfléchi, il va sortir évidemment une vacherie, parce que sinon, c'est pas drôle, et il répond « Mussolini ». Alors il y a un froid dans le dîner. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à faire tuer son gendre. Assez clair.
Alors, est-ce que vous seriez d'accord qu'on en revienne à un pape qu'on a bien connu, puisqu'il est décédé maintenant il y a 10 ans, c'est Jean-Paul II. Et avec vous, Bernard Lecomte, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on discute de son... C'est un pape polonais, hein, donc issu d'un pays communiste. Quelle a été peut-être son influence sur l'effondrement de l'URSS, puisque... Bon, vous avez beaucoup traité cette question hein, dans ce livre, donc cette biographie de Gorbatchev. D'ailleurs, une question toute bête, est-ce qu'il y avait des... Je crois est-ce qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs, les deux ? Quel était le rapport entre Gorbatchev et puis l'Église ? Lui qui était ce réformateur qu'on connaît.
Alors, peut-être, on va commencer par la fin. Je vais vous raconter la rencontre, puisque effectivement, il y a un point commun à un moment. Entre Jean-Paul II et Gorbatchev. Ça se passe le 1er décembre 1989. Jean-Paul II est pape, il est polonais, il est slave, il a joué, on va y revenir, une importance capitale dans l'effondrement du communisme, surtout en cela qu'il a redonné confiance aux populations, notamment polonaises, de cette région. Hein, le fameux « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, quand vous êtes ukrainien ou balte, ou hongrois ou roumain, vous comprenez, n'ayez pas peur. Ça veut dire que vous êtes dans un régime de terreur et qu'il va falloir résister. Voilà. L'appel de Jean-Paul II, n'ayez pas peur, c'est la date principale de tout ça. Maintenant, 1er décembre 89, le mur de Berlin est tombé depuis 3 semaines. Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989. Depuis des mois, il y avait une discussion compliquée entre Gorbatchev, enfin l'entourage de Gorbatchev, notamment un garçon qui s'appelle Vadim Zagladin, que j'ai bien connu, et dans l'entourage du pape, ceux qui justement traitaient la diplomatie, etc. Et l'idée de Gorbatchev. Gorbatchev, à ce moment-là, il vend sa perestroïka, il essaye désespérément de convaincre les Occidentaux de l'aider, par des sous, mais pas seulement par des sous, dans l'application de la perestroïka, dans la réussite de la perestroïka. Et Gorbatchev se rend compte que le pape polonais, ça serait pas mal quand même, que le pape polonais l'aide là-dessus aussi, parce que c'est quand même une des plus grandes autorités morales du monde. En plus, il est polonais, il est slave. Donc l'idée a fait son chemin depuis les années 88. Et on discute, et à un moment, en effet, on dit, tiens, on va faire une rencontre. Et Gorbatchev prépare ça encore. Sauf que le mur de Berlin s'effondre le 9 novembre. 3 semaines après, la visite est prévue, et Mikhaïl Gorbatchev arrive au Vatican. C'est la première fois, évidemment, que le chef de l'Église communiste vient rencontrer le chef de l'Église catholique. C'est un sommet qui était, même 2 ans avant, c'était totalement inimaginable que le maître du Kremlin vienne au Vatican en audience. Là, on comprend pourquoi, avec le recul du temps. On est dans cette période où Gorbatchev cherche des alliés. Il commence à se rendre compte, dans son pays, que ça commence c'est fini, le grand enthousiasme des années 87, la glasnost, la perestroïka, les réformes, la liberté, la fin du goulag. On n'est plus dans cette période-là. On est dans une période où ça commence à devenir extrêmement compliqué pour Gorbatchev de continuer. Et donc, il va voir le pape, la veille de son grand tête-à-tête avec le président américain qui va se passer à Malte. Et là aussi, c'est une rencontre capitale. Il arrive au Vatican, il est accompagné de Raïssa, son épouse. À chaque fois qu'il a pu aller quelque part avec Raïssa, il l'a fait. D'autant que Raïssa est un véritable ambassadeur de Gorbatchev. En Occident, elle est Tout le monde l'admire, il y a des articles, il y a des couvertures de Paris Match à n'en plus finir. On n'arrête pas de discuter de Raïssa Gorbatchev. Toute petite parenthèse, en Union soviétique, il n'est pas question de parler de cette dame. Vous savez, quand vous voyez, à l'époque, c'est ma petite parenthèse, mais comme vous êtes une majorité de dames, je vais vous raconter ça pour que vous ayez bien ça en tête. Vous savez, dans les images, les photos, on voit toujours, par exemple, Gorbatchev et Raïssa qui remontent l'escalier vers l'avion, comme ça, qui font comme ça. Alors lui, il la tient par la taille, et elle fait comme ça aussi, au revoir. C'était un formidable voyage en France, notamment, il y a eu deux voyages en France très importants. Et donc, on les voit comme ça, remonter l'avion, et le couple Gorbatchev, glamour, hop, couverture de Paris Match, couverture du Figaro Magazine, couverture de partout, c'est formidable. Trois heures après, quand l'Ilyushin 62 atterrit à Moscou, Madame Gorbatchev, elle descend par la soute dans une voiture banalisée et elle rentre à la maison. Il n'est pas question qu'elle figure sur une photo de presse ou sur un reportage télé. En Russie soviétique, Madame Gorbatchev n'est rien et il faut qu'elle le sache. Bon, petite parenthèse, mais c'est quand même important hein, d'avoir ça en tête. En tout cas, elle vient au Vatican, comme elle a fait tous les voyages à l'étranger, parce qu'à l'étranger, elle est donc adulée. Mais alors au Vatican, c'est drôle, parce que Raïssa Gorbatchev, c'est une militante anticléricale. Elle a gardé ça de sa jeunesse, dans l'axe du communisme pur et dur, et elle a toujours été une athéiste, comme on disait à l'époque dans ce pays. Et elle vient au Vatican habillée d'un rouge. Ça a l'air de rien, mais Jean voit très bien ce que je veux dire. Les femmes qui viennent au Vatican accompagner leur roi de mari ou leur président de mari, elles sont en noir, en général avec une mantille. Elles essayent de respecter un protocole qui est d'ailleurs en réalité assez fantasmatique, parce que il y a aucun pape moderne qui demande à une dame de venir avec une mantille aujourd'hui. C'est du pipeau, ça. Mais ça fait rien. Quand un couple royal vient, on joue une présidente. Les fausses et vraies présidentes modernes viennent. On rigole pas avec ça. Et Raïssa, elle, c'est un geste politique. Elle est habillée en rouge cardinaliste. Bon, pas de mantille, rouge. Et à un moment, on fait visiter à Raïssa les appartements Borgia, la chapelle Sixtine, etc. Et à un moment, il y a un Monsignor qui croit bien faire et qui dit Madame Gorbatchev, vous voyez, là c'est Jésus. Elle se tourne et c'est filmé ça, et c'est pour ça qu'on a ce témoignage. Elle se tourne vers le coffre, mais je sais bien que c'est Jésus. Bon, ne me prenez pas pour une idiote quand même. Bon, ça c'est curieux. Et après, alors Gorbatchev entre dans le bureau de Jean-Paul II, ce qu'on appelle la bibliothèque privée, au deuxième étage du palais apostolique. Là, il se passe entre une heure et une heure et demie, là, de conversation. Alors, je vais revenir sur la conversation, je finirai avec ça. Mais à la fin de la conversation, il y a toujours, c'est la tradition au Vatican, le pape ouvre les portes et l'homme reçu en audience présente sa délégation, son entourage. Et donc, à ce moment-là, Gorbatchev appelle Raïssa et Raïssa entre dans le bureau. Et là, il y a un échange qui est magnifique, parce que Raïssa entre, et Gorbatchev, qui sort d'une entrevue qui l'a complètement ému, dit à sa femme, « Tu vois, Raïssa, je te présente l'homme le plus important de notre époque, et il est slave comme nous !» C'est les mots exacts, hein. Vous voyez, Gorbatchev, qui devient petit garçon, là, qui dit à sa femme, hein, « Et il est slave comme nous !» Alors, elle, évidemment, très gentille, etc. Pourquoi l'émotion de Gorbatchev? Et je finirai avec ça, cette séquence. Parce qu'il s'est passé pendant cette entrevue quelque chose de très très étrange. Pour le chef du Kremlin, même s'il est un homme ouvert, réformateur, l'homme de la perestroïka et de la glasnost, il a quand même sa culture, Gorbatchev. Gorbatchev, c'est un petit soviétique. Hein, qui est né avant la guerre, sous Staline, qui a été très marqué par la guerre, qui a voulu reconstruire son pays, qui a fait une carrière d'apparatchik absolument claire et nette. Il n'y a jamais une phrase de travers chez Gorbatchev pendant ses 60 premières années, ou ses 54 premières années, puisqu'il a été porté au pouvoir à 54 ans. Gorbatchev, c'est un pur et dur du communisme. Simplement, il est d'une autre génération, il est plus ouvert, et il va faire ce qu'on a dit. On pourra y revenir, si vous le voulez, tout à l'heure. Et Gorbatchev et incarne cette culture soviétique pour laquelle un pape, c'est forcément un type épouvantable, c'est forcément l'allié de l'impérialisme, c'est forcément la voix du capitalisme incarné, c'est forcément quelqu'un de... C'est un ennemi, un pape. D'ailleurs, c'est un ennemi qu'on connaît à peine, parce que en russe, il faut savoir que en russe, le pape, on ne sait pas qui c'est. Gorbatchev, jusqu'en 1988, il ne sait pas ce que c'est qu'un pape. En russe, vous savez, on dit pas le pape, on dit Papa Rimsky, le pape de Rome, pour bien expliquer qui est ce personnage. Et donc, le pape, c'est un personnage un peu mystérieux, mais qui, incontestablement, est un allié objectif de l'impérialisme. Ça, c'est clair. Et quand Gorbatchev rencontre Jean-Paul II, il lui dit ça. Il lui dit, vous savez, dans toute notre démarche, depuis la chute du mur, ce qui nous fait peur, c'est que les Américains nous imposent leur culture, leur domination générale. Gorbatchev qui dit ça. Et Jean-Paul II lui dit, mais c'est exactement ce que je crois. Et là, Gorbatchev est sidéré. Sidéré. Parce que le pape lui dit, mais vous parlez de maison commune européenne, moi je parle de l'Europe, de ses racines, l'Europe des deux poumons, peut-être vous vous rappelez cette expression, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, qui doit respirer avec ses deux poumons, le poumon occidental, le poumon oriental. Et Jean-Paul II dit, l'Europe, telle que nous la voulons, n'a pas besoin de la domination américaine, elle est parfaitement assez grande avec ses racines, son passé, son patrimoine, sa culture, pour vivre, et il y a un avenir européen qui n'est pas un avenir américain. Gorbatchev est sidéré. Cette remarque-là le sidère. Il s'attendait absolument pas à une remarque comme ça. Et dans l'autre sens, à un moment, Jean-Paul II, qui est donc l'ancien archevêque de Cracovie, qui a fait toute sa carrière de prêtre, d'évêque et d'archevêque sous le régime communiste, donc qui connaît quand même très 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 bien le communisme et le marxisme, et Jean-Paul II lui dit, vous savez, il y a une chose qu'on peut pas accepter, c'est que vous imposiez votre vérité. Votre vérité. Et Gorbatchev répond à Jean-Paul II à ce moment-là, mais nous avons compris que nous ne détenions pas la vérité. Et là, c'est à Jean-Paul II d'être sidéré, parce que lui, le pape polonais qui connaît le marxisme par cœur, il n'a jamais entendu ça. Que le patron du Kremlin dise « mais nous avons compris que nous n'avions pas forcément la vérité », eh bien c'est Jean-Paul II qui, à ce moment-là, est absolument stupéfait. Et vous voyez pourquoi je m'étends un peu là-dessus, parce que c'est une rencontre qui est très importante pour la suite. Ces deux-là, qui sont des hommes, qui demandaient à se connaître, qui vont en effet être étonnés l'un par l'autre, bah c'est un peu grâce à ces deux-là que l'avenir va être peut-être un peu plus facile, la refondation de l'Europe, la réunification allemande, toutes ces étapes extrêmement compliquées qui vont venir, elles vont être adoucies, améliorées par cette rencontre qui n'a l'air de rien, elle fait quelques lignes dans les livres d'histoire, hein, cette rencontre. Mais elle est absolument capitale pour la suite.
Comme je vois qu'on est en train de piquer sur les quais de mort, je voulais demander si quelqu'un...
Je voudrais juste vous dire que, comme très bien expliqué Bernard, j'ai vécu, moi aussi, comme voyageur, comme journaliste, la fin de l'Union soviétique. Un exemple, j'étais à Irkoutsk, dans un vieil appareil de l'aéroflotte soviétique, où on a fait la quête auprès des 9 passagers étrangers dont je faisais partie pour avoir $20 pour acheter du carburant pour rentrer à Moscou. C'était ça, l'humiliation. Et toute la politique actuelle russe, je ne fais pas de politique, ne vise pas à conquérir le monde, mais effacer l'humiliation des années 90, l'effondrement de l'Union soviétique a été un choc effrayant quand on dit aux gens après 70 ans de terreur, de mensonges, de rassemblement, de misère, de tout ce que vous voulez, pardon, on s'est trompé, c'est épouvantable. Mais la leçon des Russes vis-à-vis de l'histoire est quand même très, très brillante. Le 17 juillet 1998, dans un des voyages que j'organise, j'accompagnais en duo avec Hélène Karadankos, pour une fois, une vingtaine de Français. Nous étions présents lorsque Boris Eltsine, président vacillant, ivrogne, mafieux de cette Russie de transition, est arrivé à midi à la forteresse Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg. Il était à jeun, ça se voyait. Suivi du général Lebed, qui a eu un fâcheux accident d'hélicoptère après. Bref, il est arrivé avec sa femme. Et devant un parterre diplomatique extraordinaire, devant le prince Mikhaïl de Kent qui a présenté la reine, devant le petit-fils du docteur Botkin, médecin du tsar, massacré lui aussi, et qui se trouvait être, Constantin Melnik, patron à un moment des services secrets français, on voit Boris Eltsine frappait la poitrine, sa femme à genoux aussi, demandait pardon pour les crimes du bolchevisme, du stalinisme et de leurs successeurs. Bien voyez-vous, quoi qu'on en pense, la leçon de l'histoire de la Russie, c'est le courage de dire que l'histoire est un tout, et non pas comme on le fait en France, une sorte de menu à la carte où on aurait des soi-disant bons morceaux et de soi-disant mauvais morceaux, non, et de raconter ce qui s'est passé, de demander pardon, de faire des honneurs militaires aux héros des armées blanches et tout ça, de rappeler tout le courage russe qui a été extraordinaire. Quand j'ai montré la photo que j'ai faite, et je vous invite à la voir dans la prochaine parution de mon livre, fin octobre, Vie intime de Nicolas II et de Alexandra, vous verrez cette photo qui est quand même extraordinaire sur cette cérémonie télévisée. J'ai montré ça au président Chirac, qui était jusque-là un de mes lecteurs, qui me dit « Oui, mais... » Je lui dis « Monsieur le Président, quand est-ce que la République française demandera pardon pour les guerres de Vendée ?» Ce serait bien de simuler, de demander pardon. Ça serait bien pour l'unité française. Il m'a dit « La Shoah était pire. » Il oppose une horreur à une autre horreur. C'est pas comme ça qu'on avance. Les Russes ont repris leur histoire et une guide stalinienne remarquable qui a travaillé avec moi, c'est une femme que je respecte, dont toute la famille a été massacrée, qui a été la guide officielle de Raymond Barre, Premier ministre, qui m'écoutait raconter des choses que j'avais trouvées en fouillant beaucoup après des années de voyage sur la fin des Romanov. Elle m'a dit ce mot grandiose. Monsieur Descartes, avec ses beaux yeux verts. Déjà, elle était inquiétante parce qu'elle m'a dit « Si tu veux te débarrasser de ta femme, tu mets mercure dans l'oreille, aucune trace. » Ça, c'est bon. J'ai pas essayé, mais je suis sûr que le KGB a mis ça au point. Et elle me regarde, elle m'écoute, elle me dit « Mais nous ne savions pas tout cela et nous ne savions pas que vous le saviez. » Merci.
Bon, merci beaucoup à eux, merci beaucoup à Bernard Lecomte et Jean Descartes.
Bravo à Bernard, parce que la position de la papauté était passionnante.
Ben, je rappelle leur livre. Donc Bernard Lecomte, Gorbatchev. Alors, je vous les recommande parce que, en tout cas, les deux là se lisent très bien. Il y a même du suspense, donc ça se lit très bien. C'est très très clair.
Vous savez, je crois plus, que Jean et moi, on a une conviction, indépendamment de nos études, etc. On a une conviction qu'on voudrait vous faire partager. J'en profite, pardon, c'est 15 secondes, mais c'est très important. Un livre, et vous l'avez, j'espère, éprouvé pendant cette croisière, c'est d'abord un plaisir. Lire un livre, il faut que ce soit du plaisir. On a le droit d'entrer dans des thèses universitaires, de lire des histoires compliquées, etc. Bien sûr, avec tout le respect que j'ai. Moi, mon père était professeur d'université, évidemment. Mais ce qu'on essaye de vous présenter, comme on l'a fait là par oral, c'est l'histoire de façon pas ludique, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas que ça soit un plaisir, qu'on s'y retrouve, que ça soit des hommes et des femmes, et que ça soit notre histoire, tout ça. C'est pour ça qu'on fait des efforts, gens comme moi, comme bien d'autres, évidemment, et tous ces auteurs qui sont là sont un peu sur cette veine-là. On écrit, on essaye d'écrire correctement, on essaye de bien écrire les histoires, parce qu'on veut que ce soit pour vous un plaisir. Voilà ce que je voulais
et
dire.
Et en plus, c'est un plaisir silencieux. Et ça...